Alors ce soir, j'ai une prédication un peu délicate à vous présenter, parce qu'il va y être essentiellement question de moi. Enfin, pour être plus exact, le texte qu'on va étudier concerne particulièrement les hommes qui sont engagés à plein temps dans le service du Seigneur. Je serai donc tenté de vous inviter tous à partir, à l'exception de ceux parmi vous dont la profession est pasteur ou missionnaire, ou secrétaire itinérant régional des GBU. C'est vrai que les quelques versets qu'on va lire dans quelques instants sont vraiment destinés à encourager le jeune pasteur qu'est Timothée. Et Paul, dans cette partie de sa lettre, veut vraiment inciter son jeune apprenti à la persévérance malgré les difficultés majeures qu'il rencontre dans son travail. Il va lui donner quelques conseils pour garder le cap et pour rester en bonne santé spirituellement. Mais je me doute que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas dans une situation similaire à celle de Timothée, vous n'êtes pas un homme engagé à temps plein dans le service de Dieu, mais ce message va quand même vous concerner d'au moins deux manières. D'au moins deux manières. La première, c'est que le discours de Paul va peut-être vous aider à recentrer vos attentes vis-à-vis des pasteurs que vous connaissez, voire peut-être même à corriger la perception que vous avez de leur travail à ces pasteurs, d'accord? Deuxièmement, ce message va vous concerner parce que les conseils de Paul pour une vie spirituelle en bonne santé, pour une bonne santé spirituelle, si ces conseils s'appliquent aux pasteurs, ils doivent probablement aussi s'appliquer aux chrétiens, à tout chrétien. Et avant de regarder le texte, je voudrais vous parler d'une étude qui a été réalisée par l'Institut Schaeffer aux États-Unis. Un institut chrétien qui s'intéresse à la vie de l'Église chrétienne. Et cette étude a été réalisée sur une période assez longue, sur une période de 20 ans. D'accord? C'est une étude sur les pasteurs en particulier, sur leur travail, et voici entre autres ce que cette étude a révélé. 90% des pasteurs se sentent fréquemment épuisés. Et je prends pasteur au sens large. Sens large, dans d'autres milieux, on parlerait de ministres de la parole, les gens qui sont engagés à temps plein et dont la fonction principale est d'administrer et d'enseigner la parole de Dieu, d'accord? Donc les pasteurs dans ce sens-là. 90% des pasteurs se sentent fréquemment épuisés. 77% des pasteurs estiment ne pas avoir un bon mariage, s'ils sont mariés. 75% des pasteurs ont l'impression d'être mal équipés pour leur travail. 71% des pasteurs luttent contre la dépression. Et un quart des pasteurs seulement trouvent qu'ils sont eux-mêmes adéquatement nourris spirituellement. Si ça, c'est la réalité aux États-Unis, dans un pays où les ressources chrétiennes sont relativement importantes, imaginez ce que ça doit être dans un pays comme la France, un pays séculier comme la France, profondément séculier. Ça tranche avec l'idée reçue du pasteur qui travaille un jour par semaine et qui mène une vie assez pépère, hein. Alors comment persévérer dans ces conditions? Comment être un bon serviteur de Jésus quand on fait un travail apparemment si difficile? Et vous, si vous n'êtes pas pasteur, qu'est-ce qui vous maintient en bonne santé spirituellement lorsque vous constatez que la vie chrétienne en général, c'est pas facile? Lorsque vous traversez des difficultés? Eh bien, il n'y a rien de révolutionnaire, hein. Ici, dans ce texte, on va voir que Paul va livrer trois conseils santé. Vous savez, les conseils santé, comme on peut voir dans les magazines parfois. Le conseil santé du jour, ben là, Paul va nous livrer les trois conseils santé du jour, des conseils santé spirituels dans ce texte, et ils sont les suivants, vous les avez à l'intérieur du bulletin. Premièrement, une bonne alimentation. Deuxièmement, beaucoup d'exercices. Et troisièmement, l'amour du métier. Ok, ça a l'air pas mal comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de ministère pastoral et plus largement en termes de foi chrétienne? Qu'est-ce que ça veut dire? Une bonne alimentation, beaucoup d'exercices et l'amour du métier. Ben regardons le texte pour essayer d'y voir un peu plus clair. On va lire les versets 6 à 10 dans ce quatrième chapitre. Donc c'est Paul qui écrit à Timothée, un jeune pasteur qui est pasteur dans une ville qui s'appelle Éphèse. En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Mais repousse les fables profanes, contes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. On va arrêter là la lecture. Je vous invite à la prière. Nous confessons, Seigneur, que ta parole est la vérité. Tu l'utilises, Seigneur, cette parole pour réaliser ton œuvre en nous sous l'action du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, s'il te plaît, rends nos cœurs disponibles, rends nos oreilles attentives et transforme-nous sous l'effet de ta parole maintenant. Car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous rappelle que dans les premiers versets de ce chapitre 4, Paul a voulu augmenter notre vigilance vis-à-vis des doctrines et des philosophies, notamment religieuses, qui circulent encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il a voulu augmenter notre vigilance par rapport à ces choses? Parce que, comme on l'a vu il y a 2 semaines, le danger en ce qui concerne notre foi, le danger vient plus de l'hérésie que de la persécution. Vous vous souvenez ce qu'on a dit il y a 2 semaines? Le danger vient plus de l'hérésie que de la persécution physique. Et tout au long de ces 2 lettres à Timothée, Paul va insister, si vous avez déjà lu ces 2 lettres, la première et la 2e lettre à Timothée, vous avez sans doute remarqué que Paul insiste à maintes reprises sur l'importance de maintenir la bonne doctrine, de rester attaché aux Écritures, bref, comme il le dit lui-même, de garder le bon dépôt, de garder cette bonne théologie, cette bonne doctrine que Paul a livrée à Timothée et qu'il a livrée aux églises du 1er siècle. Et donc au verset 6, où on a commencé notre lecture, Paul, encore une fois, va rappeler à Timothée combien il est important d'être nourri de la bonne doctrine et de nourrir les autres de cette même nourriture. Hein. Vous avez vu, en exposant cela aux frères, donc en les enseignant, en leur enseignant ces choses, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Voilà quelle est la bonne alimentation du pasteur et, par extension, du chrétien. Paul insiste sur le discernement que Timothée et que nous aussi aujourd'hui, nous devons exercer, ce discernement entre ce qui constitue la bonne théologie et la mauvaise théologie, entre ce qui est exact et ce qui est mensonger, entre ce qui est, qu'on pourrait qualifier de parole de la foi, comme dit Paul dans ce passage, et ce qu'il a qualifié un peu plus haut de doctrine, de démon. Il faut discerner entre les deux, ou encore, pour le dire autrement, entre la vérité et le mythe. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le mot qui est traduit ici par fable, au verset 7, en grec, c'est le mot qui a donné en français le mot mythe. Il faut discerner entre ce qui est vrai et les mythes, entre la vérité et le mythe. Alors, je le disais il y a 2 semaines, hein, on vit aujourd'hui à l'âge de l'information. On allume notre ordinateur, on surfe sur Internet, et au moment de surfer sur Internet, on est un peu comme quand on se promène dans un supermarché pour faire ses courses. Les rayons sont remplis de produits alimentaires différents, en quantité différente, en qualité différente, en marque différente. Et vous voulez rester en bonne santé. Alors qu'est-ce que vous allez mettre dans votre caddie? On est tous dans cette situation-là, avec l'accès qu'on a aujourd'hui à l'information, comme quelqu'un qui se promène dans un supermarché et qui a l'embarras du choix de ce qu'il va mettre dans son caddie. Mais, en tant que chrétien, nous voulons rester en bonne santé spirituelle, non? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre caddie? Paul dit à Timothée qu'un bon serviteur du Christ Jésus, c'est quelqu'un qui se nourrit de bonnes doctrines. Alors, il parcourt les rayons du supermarché et va choisir ce qui est de la bonne doctrine. Et il va laisser dans les rayons, les fables et les contes de vieilles femmes. Un chrétien qui pense pouvoir se passer de doctrine et de théologie, c'est comme quelqu'un qui pense pouvoir survivre en mangeant exclusivement au McDo. On ne va pas faire long feu. Il y a un discours que j'ai régulièrement entendu dans des milieux prétendument chrétiens, en tout cas, et c'est le suivant. Alex, avec toute ta théologie, tu étouffes le Saint-Esprit. savez quoi? La vérité, c'est que c'est l'absence de théologie qui étouffe le Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui a conduit les auteurs de la Bible dans la rédaction de ces textes qui nous sont disponibles aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous parle aujourd'hui par le moyen de propositions intelligentes et de raisonnements logiques qui se présentent à nous sous la forme de phrases écrites avec des lettres, des mots, de la grammaire dans les pages d'un livre? La doctrine n'étouffe pas le Saint-Esprit. La doctrine, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous avez peut-être entendu parler de cette expression très populaire dans certains milieux. L'orthodoxie généreuse. L'orthodoxie généreuse. L'orthodoxie, c'est un mot pour désigner la bonne doctrine, ou la doctrine en général. Et là, l'idée, c'est que on va amoindrir dans l'Église l'importance de la doctrine pour être généreux, pour favoriser d'autres choses comme l'expérience, comme le relationnel, comme l'ouverture vers les autres, l'accueil, etc., etc. Ben, ça pourrait être pas mal comme idée, finalement. Si Paul ne disait pas à Timothée, dans ce passage notamment, de suivre exactement la bonne doctrine, de s'en nourrir, de l'exposer aux autres, de la dispenser aux autres, d'utiliser cette bonne doctrine pour nourrir les autres et de repousser ce qui est contraire à cette doctrine. Paul est très explicite ici et puis le dit d'autres manières en d'autres endroits, notamment dans ses lettres à Timothée. L'orthodoxie généreuse, en réalité, c'est pas quelque chose de généreux du tout, parce que l'orthodoxie généreuse donne à manger aux chrétiens du McDo au lieu de leur donner à manger du Paul Bocuse, vous voyez. C'est pas du tout généreux d'inviter quelqu'un au McDo par rapport à celui qui invite quelqu'un d'autre chez Paul Bocuse. L'orthodoxie généreuse n'est pas généreuse du tout. Premier conseil santé de Paul dans ce texte, donc, pour être un bon serviteur de Jésus, une bonne alimentation. C'est-à-dire valoriser la bonne doctrine. La rechercher, cette bonne doctrine. L'étudier et la recevoir avec joie lorsqu'elle nous est présentée. Deuxième conseil santé de Paul, beaucoup d'exercices. Eh bien, Paul, au verset 8, vous avez remarqué, il compare l'exercice de la piété avec l'exercice corporel. Vous avez vu ce qu'il dit, à la fin du verset 7 déjà, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » Beaucoup de gens pensent que Paul fait référence au sport dans ce verset, quand il parle de l'exercice corporel. Et beaucoup de gens pensent que Paul est en train de dire que le sport, c'est pas terrible pour un chrétien. Un chrétien qui fait du sport, c'est un chrétien qui perd du temps. Voire peut-être certains ont l'idée que le sport, c'est quelque chose de relativement mal pour un chrétien. Mais en fait, c'est pas exactement ce que Paul est en train de dire ici. En fait, par l'expression « exercice corporel », Paul est en train de penser encore à ce qu'il a évoqué quelques versets plus haut, c'est-à-dire les disciplines ascétiques, vous vous souvenez de ce mot ? Comme le jeûne, par exemple, comme le célibat, par exemple, ce sont des contraintes physiques, des contraintes qui concernent le corps, n'est-ce pas? Et Paul est en train de dire que ce genre de contraintes physiques, ça peut être utile si on les fait librement, mais c'est certainement pas aussi utile que la piété. Et par le mot de piété, Paul veut dire la consécration à Dieu, la consécration totale à Dieu. Donc pour résumer, Paul est en train de dire à Timothée, en quelque sorte, je paraphrase, Timothée, travaille à être entièrement consacré à Dieu. Parce que ça, c'est vraiment utile pour ta vie et pour ton service. Alors que les diverses contraintes physiques que certains s'imposent sous prétexte de foi en Dieu, ça, c'est pas si utile que ça, Timothée. C'est pas si utile que ça. C'est vrai que le mot exercice en grec, c'est le mot qui a donné en français le mot gymnastique. Et donc, Paul est bien dans le cadre d'une métaphore ici qu'il emploie pour faire comprendre à Timothée que l'exercice de la piété, c'est l'entraînement dont Timothée a besoin pour sa vie et son service, son entraînement en quelque sorte, comme dans le sport. On s'entraîne. Dans le sport, en effet, on parle beaucoup d'entraînement et de préparation, n'est-ce pas? On en parle moins dans le milieu de l'Église, d'entraînement et de préparation. Mais Paul, lui, il le fait, hein. D'ailleurs, dans d'autres endroits du Nouveau Testament, Paul compare la vie chrétienne à une compétition sportive. Et Paul dit ici qu'il ne faut pas négliger un bon entraînement. Il ne faut pas négliger le fait de s'entraîner. Et il ne faut pas surtout s'entraîner en faisant les mauvaises choses. Un peu comme un coureur cycliste qui veut participer au Tour de France, d'accord ? Donc il va faire sa préparation, mais sa préparation physique va consister uniquement à taper dans un punching ball. Vous voyez ? Il va dans la salle de sport, il va taper dans le punching ball tous les jours. Il pense qu'il est en train de se préparer à faire le Tour de France. Paul lui dirait, mon cher ami, ça, c'est utile à peu de choses. C'est utile à peu de choses. Va plutôt sur ton vélo et va courir quelques kilomètres tous les jours. Ça sera utile. Alors moi, je suis un jeune pasteur comme Timothée et je confesse que j'ai tendance à négliger l'exercice de la piété. C'est donc pas étonnant si je me fatigue et si je me décourage. Et vous aussi, si vous êtes fatigué et découragé, serait-ce parce que vous manquez d'exercice ? Vous manquez d'exercice de la piété ? Serait-ce parce que vous ne travaillez pas à être entièrement consacré à Dieu ? Serait-ce parce que vous aussi, vous négligez les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour être en forme spirituellement, si j'ose dire ? Et ces moyens, ce sont par exemple la prière, l'étude de la Bible, la participation au culte, la communion fraternelle, le fait de se retrouver entre chrétiens et de s'encourager mutuellement. Paul dit ici que ces choses-là, dans la mesure où elles constituent effectivement l'exercice de la piété dans nos vies, ces choses-là, il dit, ont la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Ce qu'il veut dire, c'est que l'exercice de la piété nous habitue à considérer notre condition présente à la lumière de l'éternité. L'exercice de la piété nous habitue à considérer notre condition présente à la lumière de l'éternité. Jean Calvin, en commentant ce passage, dit qu'à travers la piété, je cite, « Si Dieu nous fait sentir ses bienfaits en ce monde, c'est pour nous donner un goût de sa bonté et par ce goût nous attirer à désirer les biens célestes afin que nous prenions notre contentement en ceci, dans ces biens célestes. » Alors, vous voyez, l'exercice de la piété nous fait contempler ces biens célestes afin que nous y trouvions notre contentement ici-bas dans des situations et des circonstances qui sont, quant à elles, difficiles, parfois douloureuses, parfois éprouvantes et fatigantes. L'exercice de la piété, c'est la préparation, c'est l'entraînement dont nous avons besoin pour affronter notre vocation chrétienne chaque jour. Vous voyez que ce qu'on appelle les disciplines spirituelles, ça change l'expérience qu'on fait de notre condition présente. Parce que l'exercice de la piété nous fait contempler l'héritage céleste que Dieu réserve à tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Deuxième conseil santé de Paul, donc, beaucoup d'exercice. C'est-à-dire, chercher à être entièrement consacré à Dieu grâce aux moyens que Dieu a mis à notre disposition pour cela. Maintenant, le troisième et dernier conseil santé de Paul, l'amour du métier. Tiens, l'amour du métier. Vous savez, les versets 9 et 10 dans ce passage, les deux derniers versets qu'on a lus, ils sont très intéressants parce qu'on voit là que Paul veut dire quelque chose de très important à Timothée. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Deux points. Et ce qu'il veut dire à Timothée est censé lui donner une raison convaincante de persévérer dans un travail qui est très, très difficile. Paul va s'associer à Timothée au verset 10, vous avez remarqué, il s'adressait à Timothée à la deuxième personne du singulier, maintenant il passe à la première personne du pluriel. Nous travaillons et luttons parce que, etc., etc. Mais littéralement, qu'est-ce que Paul est en train de dire à Timothée ici ? Le mot qui est traduit par travailler est un peu faible en français. En fait, ça veut dire plus exactement dans le grec se travailler en se fatiguant. Donc Paul est en train de dire, nous, Timothée, toi et moi, nous nous fatiguons en tant que pasteurs. Nous acceptons de lutter et de subir l'opprobre. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça, Timothée, alors qu'on pourrait faire un autre métier ? Alors qu'on pourrait gagner beaucoup plus d'argent ? Alors que toi et moi, Timothée, on pourrait vivre en sécurité plutôt que de faire face à l'hostilité et à la persécution ? Pourquoi, toi et moi, Timothée, on se fatigue autant et on lutte autant ? Et la réponse de Paul, parce que toi et moi, nous avons remis notre vie à Dieu, au Dieu unique et vivant, dont le plan pour le monde est de la plus haute importance. Voyez, Paul est en train de reconnaître la difficulté particulière de la vocation de pasteur, du travail que Timothée est en train d'accomplir à Éphèse. Mais il reconnaît aussi, par implication, et plus généralement, la difficulté de la vocation de tout chrétien. C'est pas facile d'être un chrétien. Tout chrétien travaille et lutte. Et là, Paul veut nous donner, il veut donner à Timothée en tout cas, l'amour de son métier en tant que pasteur. Il veut nous donner en tant que chrétien l'amour de notre vocation. Il veut nous donner une raison de continuer. Une raison de continuer malgré la difficulté. Il y a beaucoup de métiers difficiles dans le monde. Hein. Et les gens qui font ces métiers ont généralement une bonne raison de les faire. Une raison suffisante pour les motiver à se lever le matin et à se mettre au boulot. Voici par exemple le témoignage d'une femme qui est éducatrice spécialisée. Elle s'occupe d'enfants en grave difficulté. Voici son témoignage. Je fais ce métier parce qu'il m'apporte une stabilité d'abord à moi-même. J'adore mon boulot, je travaille avec des ados qui sont des cas sociaux, mais leur contact m'apporte chaque jour. Je les vois évoluer, changer, grandir, et cela me fait grandir. Voici le témoignage d'un maçon. Ça n'a rien à voir, mais c'est difficile aussi. Hein. Voici ce qu'il dit. Ce métier de maçon est difficile mais gratifiant, tous les jours à l'extérieur et par tous les temps. Le maçon doit manipuler de lourdes charges, travailler en hauteur. Malgré cela, il reste le plaisir de créer et de monter à partir de rien. Voici maintenant le témoignage d'un apôtre. Nous travaillons et nous luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Paul veut que la vie de Timothée soit conditionnée par cette perspective-là. Dieu est vivant, il a un plan qui concerne tous les hommes, c'est ça que ça veut dire l'expression « sauveur de tous les hommes », ça ne veut pas dire qu'il sauve littéralement tout le monde sans distinction, ça veut dire qu'il a un plan qui concerne tous les hommes et que le plan, son plan pour le salut concerne tous les hommes, c'est un plan universel. Mais il va sauver tous ceux qui croient à l'évangile. C'est comme s'il disait, Paul, « Timothée, ton travail est très difficile, mais l'enjeu, Timothée, l'enjeu est de la plus haute importance. » Et quel est précisément cet enjeu? C'est que tout être humain qui n'est pas attaché par la foi à Jésus-Christ est destiné à subir un jour le juste châtiment de ses fautes. Et ce châtiment, mes amis, est un châtiment éternel. Voici quel est l'enjeu. Et ça, c'est la perspective éternelle que Paul maintient sur sa vie, à travers cette bonne doctrine dont il se nourrit au quotidien. C'est la perspective éternelle qu'il maintient sur sa vie à travers l'exercice quotidien de la piété, les efforts qu'il fait avec les moyens que Dieu a mis à sa disposition pour être entièrement consacré à Dieu. Dieu est un juste juge qui ne laisse pas le péché impuni. Mais Dieu est aussi un Dieu d'amour qui a envoyé son Fils unique dans le monde pour sauver les pécheurs. Sur la croix, Jésus s'est donné en rançon pour délivrer du jugement que les hommes méritent tous ceux qui placent leur confiance en lui, tous ceux qui lui remettent leur vie par la foi. Et Dieu veut que cette bonne nouvelle soit proclamée à tous les hommes et qu'à travers cette proclamation, les croyants soient sauvés. Voilà Timothée, voilà pourquoi nous nous fatiguons et nous luttons. Voilà pourquoi Timothée. Alors, comment être un bon serviteur de Jésus quand, en tant que pasteur, on fait un travail apparemment si difficile? Et vous, si vous n'êtes pas pasteur, qu'est-ce qui vous maintient en bonne santé spirituellement lorsque vous constatez que la vie chrétienne en général, bien souvent, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Eh bien, on l'a vu dans ce texte. Paul nous livre 3 conseils santé. Une bonne alimentation, c'est-à-dire recevoir, connaître et promouvoir la bonne doctrine. Deuxièmement, beaucoup d'exercices, c'est-à-dire chercher par les moyens que Dieu a mis à notre disposition à lui être entièrement consacré. Et troisièmement, l'amour du métier, c'est-à-dire considérer l'enjeu de notre vocation en tant que témoin de Jésus-Christ. Peut-être à des degrés différents si on est pasteur ou si on n'est pas pasteur. Peu importe, nous avons tous la même vocation, être des témoins de Jésus-Christ et l'enjeu de cette vocation est de la plus haute importance. Peut-être que ce discours de Paul vous a aidé ce soir à comprendre pourquoi, dans notre Église par exemple, nous mettons beaucoup l'accent sur l'exactitude de la doctrine. Peut-être que cela vous a aidé à comprendre pourquoi nous insistons parfois sur l'importance d'assister au culte, mais aussi d'avoir l'habitude, à titre personnel, de lire sa Bible et de prier, à exercer la piété. Peut-être que cela vous a aidé à comprendre pourquoi enfin nous parlons avec tant de gravité du salut que Dieu a rendu possible pour tous ceux qui remettent leur vie à Jésus par la foi. Peut-être aussi ce discours de Paul est-il venu à point nommé dans votre vie ce soir, à un moment où vous, vous êtes particulièrement découragé, et peut-être même en proie au doute. Si c'est votre cas, je vous invite à savourer la bonne doctrine que Dieu vous présente dans sa parole, ces vérités fiables qui sont la nourriture du chrétien. Je vous invite à chercher la face de Dieu dans la prière. Je vous invite à vous habituer à contempler dès aujourd'hui l'héritage que Dieu vous réserve dans l'éternité si vous avez placé votre confiance en Jésus. Passez du temps à y penser, à méditer sur les promesses de Dieu qui concernent pas juste la vie présente, mais la vie à venir. Certes, la vocation chrétienne est parfois difficile, mais comme on le dit, le jeu en vaut la chandelle. Amen.